c'est facile. Il est 20h40 à Paris.
Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir, bienvenue au menu du débat de ce soir. Le pétrole en chute depuis l'été 2014, il a perdu 75% de sa valeur en un an et demi. Le baril de Brent, qui sert de référence, est passé il y a quelques jours sous la barre symbolique des 30 dollars, il y a quelques semaines même, et manifestement ça ne va pas remonter tout de suite. Il est ce soir, l'information vient tout juste d'arriver à la clôture à New York, à 27 dollars et 45 centimes, encore 40 centimes de baisse. Alors la logique voudrait que la nouvelle soit bonne. Le consommateur devrait payer moins cher à la pompe, les entreprises moins cher aussi leurs factures. Mais ce n'est pas si simple car, corrélativement, les pays producteurs, eux, voient leurs revenus baisser considérablement. Alors, faut-il craindre un pétrole trop bas? C'est le débat de ce soir.
Dans cette histoire, tout le monde perd de l'argent. Les Saoudiens perdent 100 milliards de dollars, les Koweïtiens perdent plus de 30 milliards de dollars. Certains peuvent continuer à produire au maximum, comme l'Arabie Saoudite, même si c'est à 36 dollars le baril. C'est pas le cas du Venezuela, c'est pas le cas du Nigeria, c'est pas le cas de l'Angola, c'est pas le cas des pays, notamment d'Afrique, d'Amérique du Sud, qui eux, n'ont pas tellement d'autres ressources. Les économies occidentales sont pas réellement des bénéficiaires parce que c'est artificiel et que quand le rebond va sonner, ça va faire mal. La baisse des cours, c'est perdant-perdant. C'est perdant pour tout le monde.
Perdant pour tout le monde, voilà ce qu'a expliqué à Claire Fage Philippe Sébille-Lopez, qui est spécialiste du pétrole. Et donc on en parle, on en débat ce soir avec nos deux invités. Thomas Porcher, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, professeur à l'école Business School of Business, auteur de Le Mirage du gaz de schiste, paru aux éditions Max Milo. David Rigoleros, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignant, chercheur spécialiste du Moyen-Orient. On vous a reçu dans le débat il y a quelques semaines à propos de l'Arabie Saoudite et vous êtes rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique. Alors, Thomas Porcher, je voudrais d'abord qu'on s'arrête sur les conséquences d'un baril bon marché sur les pays importateurs. Je disais, la logique voudrait que ce soit plutôt une bonne nouvelle. Alors, est-ce que ce pétrole bas, ça s'est répercuté pour les pays importateurs sur le pouvoir d'achat ?
Oui, effectivement, le premier gain, il est quand même sur le pouvoir d'achat des automobilistes. Là, c'est clair, on a un prix de l'essence qui est très peu cher, beaucoup, largement en dessous des prévisions qui étaient dites il y a quelques années. On se souvient même qu'à l'époque, l'ancien président de Total avait annoncé qu'un jour, l'essence coûterait 2 euros. Et aujourd'hui, on a un prix du gazole qui est autour de 1 euro. Donc, pour le pouvoir d'achat des consommateurs, il y a un gain. Maintenant, est-ce que c'est un gain global pour les pays importateurs? C'est plus difficile de le dire parce qu'on a tout un tas de nos entreprises, les parapets pétroliers qui souffrent énormément, qui licencient. Et il y a le cas de Vallourec qui a été renfloué par l'argent du contribuable français. Il faut pas l'oublier. Il y a des Schlumberger qui va licencier 7000 personnes. Donc pour les entreprises, on n'est pas sûr que ce soit bon. Et puis il y a tout un tas de nos entreprises qui ont des contrats avec des pays exportateurs de pétrole qui ont moins de revenus pétroliers aujourd'hui. Donc on n'est pas sûr d'un point de vue purement économique, sans prendre même en compte la question climatique, parce que c'est notre question que l'on doit greffer, mais d'un point de vue purement économique, on n'est pas sûr qu'au final, ce soit quelque chose de si bien pour nos économies.
Alors, l'équilibre est difficile à faire, mais David Rigoleros, est-ce qu'on a une idée, par exemple, on a parlé de la France, de l'Inde, de la Turquie, de l'impact qu'a pu avoir un pétrole bas en matière de croissance ?
En tout cas, le fait que le pétrole soit bas, c'est déjà le symptôme qu'effectivement il y a une anomalie sur la croissance mondiale. Donc, en tant que tel, c'est préoccupant et c'est d'autant plus préoccupant, paradoxalement, que la consommation au sens strict du brut, c'est-à-dire c'est 90 millions de barils jour, n'a pas baissé. Ce qui s'est effondré, c'est la croissance de la consommation pétrolière. Et donc là, il y a une disjonction entre la consommation qui finalement n'a pas baissé en tant que telle, et puis l'indice que ça induit.
La tendance, en fait.
La tendance, c'est ça, c'est le symptôme que ça révèle.
On a beaucoup parlé à ce titre-là de la décélération chinoise qui expliquerait la baisse du prix du baril. Vous souscrivez à cette analyse ?
Exactement. Je souscris complètement. Et puis surtout, il faut voir le prix du pétrole, c'est comme un bon thermomètre de la santé de l'économie mondiale. On se souvient, avant la crise de 2008, on avait un prix extrêmement haut, à 148 dollars, ce qui montrait que l'économie était en surchauffe. On a vu qu'elle était en surchauffe, notamment parce que l'économie américaine était en surchauffe via les subprimes. Or là, on a un prix extrêmement faible, donc ce qui montre qu'on n'a pas de croissance. Qu'il y a un manque de croissance. Et donc, ça indique qu'effectivement, l'économie n'est pas en très bonne santé, l'économie mondiale. Et notamment, les émergents ne sont plus là. C'est plus un moteur pour la croissance comme à l'époque. En zone euro, on n'a pas une croissance exceptionnelle. Aux États-Unis, la croissance semble repartie, mais pareil, on ne sait pas sur quelle base. Donc, finalement, ça indique que l'économie mondiale ne se porte pas très bien.
David Rigoulet-Rose, on entendait tout à l'heure en début d'émission Philippe Sébi-Lopez qui nous disait « c'est artificiel, quand le rebond va sonner, ça va faire mal », qu'est-ce qu'il veut dire ?
Ben, c'est-à-dire que la situation actuelle fait que beaucoup de projets d'exploration, production sont en ralenti, voire à l'arrêt. Et donc, ça veut dire que à terme, à partir du moment où il y aura un rebond de demande, ce qui pour l'instant ne se pose pas, il risque d'être brutal. Et là, le jeu de l'offre et de la demande fera que les prix risquent de monter très rapidement sans qu'on ait une marge de manœuvre suffisante, justement du fait de ce déficit d'exploration-production qui a lieu en ce moment.
Alors, je voudrais qu'on en passe maintenant, qu'on passe aux conséquences pour les pays producteurs, puisque c'est là aussi que le bât blesse. Donc, pour les pays producteurs, un baril bon marché, c'est synonyme de baisse de revenus, de baisse aussi de revenus fiscaux. Thomas Porcher, quel impact pour les pays producteurs ? Alors, il faut faire des différences entre les pays producteurs, évidemment.
Bien sûr. Alors, tous les pays producteurs sont impactés de façon négative, mais à différents degrés. Les pays du Golfe ont un coût d'extraction très faible, ils ont des fonds souverains avec des centaines de milliards de côté, ce qui fait que s'il y a des pertes de revenus, ils peuvent les compenser en piochant de l'argent dans ces fonds souverains. C'est le cas de l'Arabie Saoudite, c'est le cas des Émirats, du Qatar, du Koweït. Mais c'est pas le cas d'autres pays, même membres de l'OPEP, comme le Venezuela, l'Algérie ou le Nigeria, qui sont dans des situations très dures actuellement, ou même le Congo, le Gabon, qui vivent des véritables plans d'ajustement structurel.
Quand vous dites des graves conséquences, est-ce qu'on arrive à les chiffrer ça, en matière de PIB, par exemple, ou de production, ça veut dire quoi ?
Quand vous êtes un pays que 90% de vos exportations, c'est du pétrole, que 60% de vos recettes, vos revenus du budget de l'État viennent du pétrole. Vous imaginez que si vous avez un pétrole qui a été divisé par 5, vous avez vos recettes qui sont divisées probablement par 5 également.
Vous parlez d'un pays en particulier pour ce...
on pourrait pratiquement l'appliquer à tous les pays, sauf les pays du Golfe. Encore, on peut l'appliquer aussi aux pays du Golfe. Mais comme
la
ils ont
Russie,
leur fonds
par
souverain,
exemple.
La Russie, deux tiers de ses revenus viennent des hydrocarbures. Le Congo, des pays d'Amérique du Sud, etc. Et souvent, en plus, dans cette maladie un peu de pétrolière, quand on a des revenus pétroliers, comment on distribue cette rente ? Eh bien, on crée des postes de fonctionnaires, souvent, on crée des postes d'étudiants financés, et vous savez, on investit dans des gros plans publics que l'on finance avec la rente pétrolière, et quand cette rente diminue, ben, vous pouvez moins payer les fonctionnaires, vous les payez avec du retard, ça s'est déjà vu dans beaucoup de pays pauvres pétroliers, vous donnez moins de bourses étudiantes, vous stoppez les projets, et donc l'économie dépend complètement, finalement, de ce prix du pétrole.
Et donc les conséquences sociales sont potentiellement énormes.
Les conséquences sociales énormes. Il peut y avoir, à mon avis, dans beaucoup de pays, il va y avoir de très fortes tensions. Et il y en a déjà eu quand les prix du pétrole, à d'autres moments, étaient descendus beaucoup plus bas. Donc il risque d'y avoir effectivement des conséquences très fortes dans certains pays, et surtout les pays pauvres pétroliers.
Alors on reviendra sur ces pays pauvres pétroliers, mais David Rigoulet-Rose, vous êtes spécialiste du Moyen-Orient. Je voudrais que vous nous donniez un petit peu votre analyse des conséquences de ce pétrole bas dans le Golfe.
Les pétromonarchies sont les pays qui seront les moins impactés de manière immédiate parce que elles ont un avantage considérable par rapport aux autres, hors ou pas OPEP, c'est qu'ils ont effectivement des fonds souverains très bien garnis qu'ils ont alimentés ces dernières années du fait de la hausse spectaculaire des cours. Pour ne donner qu'un exemple, le Royaume d'Arabie Saoudite qui avec la SAMA a un fonds souverain qui avant justement la tendance baissière se montait à 750 milliards, il est quand même encore pourvu de 620 à 630 milliards de dollars, ce qui est considérable. Alors, ça veut dire que ça fond quand même vite. D'ailleurs, le FMI avait évoqué à la fin de l'année dernière un risque pour l'Arabie Saoudite à échéance de 5 ans, en puisant considérablement dans son fonds, de se retrouver au bout du compte sans réserve, effectivement.
Donc, ce que vous nous dites, c'est que si le pétrole reste à 27 dollars pendant 5 ans, l'Arabie Saoudite n'aura plus ses fonds souverains, plus de liquidité.
C'est pas moi qui le dis. C'était une anticipation du FMI qui montrait justement que même un pays qui a énormément de réserves joue avec le feu, en l'occurrence l'Arabie Saoudite, puisque c'est l'Arabie Saoudite qui est quand même à l'origine de cette dynamique baissière, ce qui n'est pas négligeable. Et puis évidemment les pays hors péninsule arabique sont beaucoup plus touchés parce que un pays comme le Venezuela, etc., n'a pas de cash, et donc il est dans une situation qui est dramatique, beaucoup plus dramatique que les pétromonarchies. Mais pour autant, les pétromonarchies également sont confrontées à des défis qu'elles ne connaissaient pas, notamment avec des hausses sur les produits pétroliers, etc. C'était une logique de subvention, d'État-providence, qui aujourd'hui se trouve pour partie hypothéquée.
Alors, si les pétromonarchies en souffrent tant, pourquoi est-ce qu'elles n'agissent pas en réduisant la production pour faire remonter le cours du baril, Thomas Porcher ?
C'est ce qu'elles ont fait pendant 20 ans. C'était leur stratégie, elles faisaient remonter les prix du baril, elles jouaient plus le prix que la part de marché. Et là, l'Arabie Saoudite, je pense, moi, personnellement, que l'Arabie Saoudite a eu très peur d'un développement mondial des pétroles de schiste qu'aurait pu l'affaiblir. Je pense qu'elle a surestimé les pétroles de schiste, qui certes étaient une révolution aux États-Unis et qui ont été le déclencheur de la baisse des prix, mais qui n'étaient pas applicables dans le reste du monde et qui avaient quand même une fin, même s'il y avait une forte production qui avait augmenté, elle n'aurait pas pu augmenter de manière linéaire pendant 20 ans. Donc à un moment, cette production de pétrole de schiste aurait moins augmenté ou aurait stagné.
Et alors
donc...
attendez, pour être sûr que j'ai bien compris, et les auditeurs, Vous êtes en train de nous dire que l'Arabie Saoudite n'aurait pas baissé sa production pour faire remonter les cours parce qu'elle aurait peur de quoi ? De perdre des parts de marché ?
Des parts de marché, exactement. En fait, le pétrole de schiste américain a tellement progressé ces dernières années que les Américains sont devenus le premier producteur mondial de pétrole. Et que là, je pense que l'Arabie Saoudite s'est dit, ça augmente parce que c'est rentable à un prix très élevé. Donc, on va faire chuter le prix. On ne va pas intervenir. On va changer de stratégie pour faire en sorte que ce pétrole de schiste, qui est plus cher que le nôtre, ne soit plus rentable et qu'il sorte du marché.
Donc, et cette stratégie, elle est payante ?
Eh ben, jusqu'à aujourd'hui, on a une production qui s'est stabilisée, qui commence un petit peu à diminuer, mais on a des investissements qui baissent considérablement dans les pétroles de schiste. Et effectivement, à terme, si on en regarde les investissements, même si les Américains augmentent leur productivité, à terme, la production de pétrole de schiste devrait diminuer.
Donc, David Rigoulero, si j'ai bien compris ce que disait Thomas Porcher, il ne faut pas s'attendre là à une action de l'OPEP, action choc pour limiter la production ?
C'est certainement pas ce qui a motivé la tendance baissière initiée par l'Arabie Saoudite. Je rejoins tout à fait ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une forme de fuite en avant et que probablement la question, l'enjeu des shale oil, enfin des gaz de schiste et des pétroles de schiste américains, a été tel que l'Arabie Saoudite s'est dit, il faut absolument couler au sens propre comme au sens figuré ces gisements, je veux dire, pour éviter de perdre les parts de marché, avec quand même une responsabilité considérable sur la configuration mondiale. Parce qu'effectivement, ça affecte absolument toute la structure économique mondiale, et ça fragilise des pays qui sont exposés à court terme à des tensions, comme vous le disiez, extrêmement fortes, voire à des violences, des phénomènes de violence. Et là c'est un trou noir. Là, pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer, mais il y a des dangers qui sont considérables.
J'ajouterais même quelque chose, c'est que là on voit bien qu'il y a les intérêts ne sont même pas convergents à l'intérieur de l'OPEP, alors que normalement l'Arabie Saoudite a une stratégie et l'OPEP amplifie cette stratégie. Finalement, elle amplifie la stratégie de l'Arabie Saoudite. Quand l'Arabie Saoudite fait quelque chose, le fait que d'autres producteurs s'ajoutent à la décision prise par l'Arabie Saoudite, généralement, même si c'est une réunion, ça amplifie. Or là, il y a vraiment des intérêts divergents entre, d'un côté, des pays du Golfe qui peuvent résister 3 ans, 5 ans, et là je rejoins là-dessus selon le FMI, parce que à mon avis, si au bout de 5 ans ça reste à 20 dollars, il y aura beaucoup de pays, il y aura beaucoup de dégâts dans d'autres pays, et l'Arabie Saoudite sera pas très bien non plus. Mais
donc le changement de stratégie, c'est peut-être dans quelques années, mais pas tout de suite.
Là, il y a eu un changement de stratégie déjà qui était surprenant. Je pense qu'il joue cette stratégie sur 3 ans. Je pense qu'au-delà de 3 ans, s'il n'y a pas une remontée des prix, si la productivité américaine arrive encore à augmenter, si on est dans une situation complètement aberrante où les pétroles de schiste arrivent à résister, je ne sais pas pour quelle raison, parce que je ne vois pas comment, là, effectivement, ça aurait été une stratégie où l'Arabie Saoudite se sera tiré une balle dans le pied.
David Rigoulet-Rose, vous me disiez tout à l'heure, juste avant que l'émission débute, que le bas coût du pétrole, ça avait un impact énorme au Venezuela notamment, et c'est un pays qui vous inquiète particulièrement pour les conséquences que ça peut avoir ?
Oui, alors moi, c'est pas ma zone de spécialité, mais au regard de la configuration, puisque le Venezuela fait partie de l'OPEP, c'est vrai qu'on peut souligner qu'aujourd'hui, le Venezuela importe du pétrole américain. Ce qui paraît absolument stupéfiant au regard des réserves vénézuéliennes, notamment des réserves de pétrole non conventionnel, qui sont censées être les plus importantes du monde, même devant celles de l'Arabie Saoudite. Donc il y a un paradoxe dans cette situation quand même. C'est vrai que, et vu la situation économique actuelle avec la transition économique, la transition politique un peu chaotique au Venezuela, entre un président et un parlement qui sont opposés, c'est vrai que on peut s'interroger sur ce qui peut se produire à court terme, en tout cas.
Thomas Porcher, est-ce qu'il y aurait un prix juste du baril qui remettrait tout à l'équilibre ? On dit, j'ai lu 70 dollars par exemple, est-ce que c'est vrai ?
Oui, c'est vrai que ce serait un prix raisonnable, mais c'est vrai que les investissements qui avaient été imaginés ces dernières années se tablaient toujours sur un prix à 100 dollars. Quand on, vous vous souvenez de la Guyane, par exemple, chez nous, on voulait aller forer à 6000 mètres de profondeur en Guyane. On nous disait d'ailleurs à l'époque que le Guyane, ça allait presque devenir le Koweït si on écoutait tout le monde. Et ce projet-là, c'était à un prix à 100 $. Vous voyez, donc là, on a eu une baisse des prix très forte, alors qui est effectivement une bonne nouvelle, peut-être une bonne nouvelle pour le consommateur, mais ça peut être aussi une bonne nouvelle parce que aujourd'hui, les investissements dans les pétroles sont coupés. Et si les investissements dans les pétroles sont coupés, c'est peut-être le temps de réorienter notre industrie vers d'autres énergies qui soient beaucoup moins polluantes.
Alors, vous me fournissez une transition parfaite. David Rigoulet-Rose, est-ce que la chute des prix du pétrole, ça peut pas être synonyme de coup d'accélérateur pour les réformes, y compris par exemple en Arabie Saoudite, qui est ultra dépendante du pétrole?
Oui, alors je pense que l'Arabie Saoudite sera pas le meilleur exemple en la matière, justement parce qu'ils sont dans l'incapacité d'organiser une transition réfléchie. Elle aurait dû être anticipée, ce qu'elle n'a pas été dans le cas de l'Arabie Saoudite. Pour les autres pays qui y ont déjà réfléchi, la question est posée. Je ne suis pas sûr que la facilité d'un pétrole à prix très très accessible va induire cette dynamique. Ce serait bien, ce serait souhaitable, ce serait même nécessaire. Mais après, la question, c'est selon quelle modalité, à quelle échéance. C'est une opportunité qu'il faudrait saisir, effectivement, parce que la question du changement climatique induit effectivement une décarbonisation de l'économie mondiale.
Et puis l'Arabie Saoudite est l'une des premières victimes aussi de ce changement climatique, non ?
Oui, mais malheureusement, ils sont dans une logique de très court terme, avec l'idée qu'il faut profiter au maximum de ce que peut donner la manne pétrolière. Il n'y a pas vraiment une stratégie à échéance de 20 ou 30 ans sur la transition énergétique saoudienne.
Thomas Porcher ?
Je suis d'accord avec ce qui est dit. C'est vrai qu'il y a pas, je pense pas qu'il y ait une stratégie de long terme, mais je pense qu'il y a eu aussi une surprise sur cette baisse des prix. Mais rappelons quand même que l'Arabie Saoudite produit 10 millions de barils par jour, hein, peut-être un peu plus, mais qu'elle n'en consomme que 2 millions. Donc vous savez, on est le miroir finalement de cette production. Quand on parle souvent du climat et de l'Arabie Saoudite, on dit oui, elle ne veut pas faire d'efforts, etc. Mais la majeure partie de sa production est exportée, c'est nous qui la consommons. Donc c'est aussi à nous de faire des efforts.
Donc est-ce que vous pensez que ce prix bas, ça peut être en fait une bonne nouvelle pour la planète ?
C'est pas pour l'Arabie Saoudite qui est une véritable éponge à pétrole, qui a un coût d'extraction à 20 $ et dont on aura toujours besoin finalement de son pétrole. C'est pour tous les projets faramineux d'énergie extrême à 6000 mètres de profondeur en Arctique, en Guyane ou même les pétroles non conventionnels que là il faudrait complètement arrêter parce que c'est ces pétroles-là qui sont suicidaires. Il y a encore beaucoup de réserves dans des pays qui en ont beaucoup, l'Irak, l'Arabie Saoudite, etc. Du pétrole conventionnel. Et on ne pourra pas l'utiliser entièrement si on veut rester sous 2 degrés, selon l'accord de Paris. On devra en laisser 2/3 sous le sol. 2/3 sous le sol. Donc voilà, concentrons-nous sur ces réserves-là pour organiser la transition et arrêtons des investissements extrêmement coûteux dans des énergies extrêmes.
Alors, pour terminer cette émission, peut-être un peu d'économie fiction, jusqu'où peut descendre, à votre avis, David Rigoulet-Rose, le cours du pétrole ? Parce qu'on n'imaginait pas, il y a encore quelques années, qu'on serait sous la barre des 30 $.
Le ministre du pétrole, Al Nouaimi, avait évoqué dans une revue, dans la revue Middle East Economic Survey, justement l'année dernière, le fait que le pétrole pourrait descendre au-dessous des 20 $. Ça veut dire que ce qui était intéressant, c'est que ça veut dire que les autorités du royaume avaient imaginé un scénario où le pétrole serait effectivement approcherait les 20 $. Et donc là, on n'en est pas encore arrivé à ce niveau-là, mais ça veut dire qu'ils anticipaient la possibilité d'aller aussi loin.
Et ça accélérerait encore le calendrier dont vous nous parliez
alors
tout à
voilà,
l'heure.
Alors voilà, ça accélérerait les effets qu'on connaît déjà et avec toutes les conséquences subséquentes. Et donc là, c'est vrai qu'il y a un point d'interrogation, mais manifestement, l'Arabie Saoudite n'est pas disposée à faire remonter à court terme le prix du baril.
Thomas Porcher, même question. 20 $, ça vous paraît possible ?
À 20 $, il n'y aura que très peu de pétrole. Pétrole qui sera rentable sur Terre, il sera principalement dans les pays du Golfe, hein, parce que partout ailleurs, même du pétrole que l'on tire aujourd'hui, que l'on exploite aujourd'hui, ont des extractions largement au-dessus de 20 $. Donc si c'est le cas, l'Arabie Saoudite aura finalement gagné son pari, mais à quel prix pour elle, voilà.
Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci à nos deux invités, Thomas Porcher, économiste, professeur à l'école Business School of Business, auteur de Le Mirage du gaz de schiste, paru aux éditions Max Milo. Merci à David Rigoulet-Rose, enseignant, chercheur spécialiste du Moyen-Orient, rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique. Merci messieurs. Merci également à Florence Ponce, à Valentin Vaner. On se retrouve demain pour un nouveau débat sur un tout autre sujet, le retour de la censure dans le cinéma. À demain.